Nous voici à la 7e aventure de Marcas, flic franc-maçon. 7 thrillers avec ce cher Antoine pour héros. 7, le chiffre initiatique par excellence qui hante toutes les traditions spirituelles. Des 7 vertus maçonniques, selon Jacques, aux 7 piliers de la sagesse, pour Éric. Chacun de nous, au gré de sa propre vie, a toujours été marqué par ce chiffre, ce qui nous a décidé, pour cette nouvelle aventure d'Antoine Marcas, à explorer l'ésotérisme jusqu'aux ténèbres. Lire un thriller ésotérique, c'est entrer dans un univers dont les seules frontières sont celles de l'imagination. Un monde merveilleux, parcouru de codes secrets et de trésors cachés, tissé de prophéties obscures et de manuscrits étranges, habité par des rituels redoutables et des sociétés secrètes. Un univers ambigu où se révèle, au travers de symboles énigmatiques, la vérité souvent occultée de l'histoire officielle. Amis lecteurs et lectrices, nous sommes semblables. Nous avons eu les mêmes lectures et vu les mêmes fictions. C'est « Un matin des magiciens » de Powels et Bergier, relu avec passion, puis tendresse. C'est Belphégor qui hante la nuit les couloirs du musée du Louvre. C'est Indiana Jones à la poursuite du Graal ou Benjamin Gates obsédé par le trésor des Templiers. C'est l'or du 1000e matin des alchimistes, c'est une citadelle cathare brûlée au soleil des mystères. C'est le curé d'un petit village de l'Aude et son secret incroyable. C'est Corto Maltese, fasciné par un abraxas dans une cour perdue de Venise. C'est un vent qui se lève dans la forêt de Brocéliande. C'est surtout un rêve éveillé. Une poésie initiatique qui colore enfin ce monde actuel devenu si conventionnel et nombriliste. Car, comme le disait Jean Cocteau, il existe un considérable public de l'ombre, affamé de ce plus vrai que le vrai qui sera un jour le signe de notre époque. Écrire pour ce public de l'ombre est notre privilège. Et maintenant, il ne vous reste plus qu'à tourner cette page. Lux Tenebrae est une porte qui ouvre sur un autre univers. Une autre porte. La 7e. Éric Giacometti, Jacques Raven. Prologue. De nos jours. La lumière verte baignait le temple d'un halo diffus, malsaine. Antoine fixait son regard sur les 2 piliers de pierre qui se dressaient devant lui. Eux aussi rayonnaient de la même lueur irréelle. Il pouvait encore renoncer. Après, ce serait trop tard. Il tourna les yeux sur la gauche. À quelques mètres, le visage minéral, fin et allongé du pharaon le contemplait, avec un sourire énigmatique. Un pharaon plus proche de la divinité que de l'homme. Cela ne fit qu'augmenter sa peur, une peur panique, incontrôlable. Elle le submergeait. Antoine Marcas crispa ses mains sur les accoudoirs sculptés du trône de pierre. Il était assis, prisonnier, par sa propre volonté. Plus d'échappatoire. Il allait enfin savoir. Le secret immémorial. Il venait de prendre la décision la plus importante de sa vie. Jamais il n'était allé aussi loin. Jamais. Il pensa à ceux qu'il aimait. Très peu nombreux. Son fils. Cela lui donna du courage. La peur n'avait pas tout à fait gagné. Marcas s'articula lentement. Sa voix grave monta dans la grande salle. « Tuez-moi. » Partie 1. Chapitre 1. De nos jours, 2 semaines plus tôt, Avignon, place du Palais des Papes. Le squelette lança vers le ciel étoilé un premier os, un deuxième, puis un troisième. Chaque fémur virevolta avec grâce avant de retomber dans sa main, puis de s'élancer à nouveau dans les airs. Le squelette était à l'évidence un professionnel aguerri du jonglage. Les os ne s'entrechoquaient jamais. À côté de lui, 2 autres squelettes dansaient avec légèreté sur l'adagio de la 6e symphonie de Beethoven. Les justaucorps noirs peints de traînées blanches, étonnants de réalisme, laissaient apercevoir les formes souples et gracieuses de danseuses. Les mouvements des bras et des jambes, les arabesques des os dans le ciel, épousaient à merveille le rythme lancinant de la symphonie. Un petit écriteau était posé à terre avec cette mention en lettres gothiques noires. « Tu es déjà mort et tu ne le sais pas. » La place du Palais des Papes était noire de monde, mais il y avait peu de badauds autour des quatre intermittents du spectacle macabre. Les touristes préféraient s'agglutiner par grappes devant des types déguisés en gros ours marrons, portant des t-shirts jaunes, qui distribuaient des canettes de boissons sucrées. L'un des ours bouscula le squelette jongleur. Déséquilibré, l'artiste ne put attraper ses fémurs qui tombèrent à terre. L'ours n'avait même pas fait attention à l'artiste et continuait à lancer ses boissons gazeuses à la foule avide. Assis à la terrasse du café bourré de touristes, Marcas ne put s'empêcher d'éprouver de la compassion pour le squelette. Le pauvre type ne faisait pas le poids face à la multinationale du sucre en bouteille qui utilisait des peluches géantes pour se faire de la pub. Il se leva et alla déposer un billet de 5 € dans la casquette des squelettes. Puis il s'approcha de l'ours et d'un mouvement souple, il lui fit un croche-pied discret. L'animal s'affala et des dizaines de canettes roulèrent à terre. Les badauds se ruèrent sur les sodas en riant. En silence, les trois squelettes s'inclinèrent. Marcas fit de même et tourna les talons. Il se sentit l'âme généreuse et justicière, un tribut à la mort en quelque sorte. Il retourna à sa table pour contempler le spectacle. La place du Palais des Papes était bondée. Les hautes façades gothiques blanches de la forteresse religieuse se découpaient sur le ciel noir. Les terrasses des restaurants retentissaient de cris et de rires. Il consulta sa montre et jeta un dernier regard sur les tours du palais. Il allait être en retard à la tenue. Il alla le garçon pour payer et sortit de sa poche le plan froissé qui indiquait l'adresse de la loge Don Pernetti où il devait se rendre. À vue de nez, c'était à moins de 300 mètres de là où il était. Une main se posa sur son épaule. Il se retourna et se trouva face à face avec le visage épais et cramoisi d'un quinquagénaire vêtu d'une chemisette à manches courtes décorée de fleurs mauves. L'homme sentait fortement la bière.
« Dis donc, mon gars, je t'ai vu, il t'a fait quoi, l'ours ?»
Marcas le toisa.
« J'aime pas les ours. »«
Et moi, j'aime pas les gars qui aiment pas les ours. Il t'a rien fait, le mec que t'as fait tomber ?»
Cet ours, qui n'en est pas un, distribuait des sodas sucrés à des mômes. C'est pas bien. Dans ton langage, il fait pas ce qu'il faut faire.
Ah ouais, le type qui fait le con sous son déguisement gagne sa croûte. Je vais peut-être appeler les flics pour te faire apprendre les bonnes manières.
Marcas leva les yeux au ciel. Cet abruti allait le mettre en retard pour sa tenue maçonnique. Il ne pouvait pas expliquer qu'il avait raté l'ouverture des travaux pour une histoire d'ours. Il sortit sa carte et la colla sous le nez du protecteur des animaux. La police est devant vous et à votre service. Il aimait pratiquer de temps à autre des petits abus de pouvoir.
Pardon, bredouilla l'homme.
Marcas prit son air le plus menaçant. Cet homme déguisé en ours est à la tête d'un dangereux groupement terroriste. Il devait rejoindre des complices. Je l'ai stoppé le temps que mon collègue déguisé en squelette lui pose un micro dans la fourrure. Vous voulez être arrêté pour obstruction à enquête ? Toute la place est quadrillée par mes hommes déguisés en touristes. Il fait pas bon me contrarier. » Le visage de l'homme vira au rouge vif.
« Je ne savais pas, désolé. »
Marcas déposa sa monnaie pour régler son demi et se leva.
« C'est bon, on va faire comme s'il ne s'était rien passé. Vous voulez vous rattraper et participer à l'opération ?»«
Oui, tout ce que vous voulez. » »«
Allez voir le squelette là-bas et glissez-lui un billet de 10 €. Ça authentifiera sa couverture. Dites-lui que son numéro est génial, de façon à ce que tout le monde entende. »
« Bien sûr, monsieur le commissaire !»
dit l'homme en bondissant de son siège, sans attendre de réponse. Antoine se félicita de son à-propos. Il avait fait coup double. Il quitta le café et se dirigea vers le sud de la place, puis obliqua dans une petite ruelle. L'agression du nounours avait eu raison de sa mauvaise humeur. Un quart d'heure plus tôt, il s'était fait envoyer balader par son ex au téléphone, sous prétexte qu'il ne pouvait pas prendre leur fils le prochain week-end. Il avait eu beau plaider qu'il devait assurer une perquisition, rien n'y avait fait. 14 ans après leur divorce, il se prenait toujours le bec. Il chassa l'image de son ex et réalisa avec retard que son croc-en-jambe justicier était dû en partie à son altercation. Elle avait toujours le don de l'énerver. Et le pauvre type en costume, qui devait être lui aussi un intermittent, comme le clown, en avait fait les frais. Peut-être était-il en train de devenir un vrai con. Elle avait sans doute raison. Et un con avec une carte de police disposait d'un pouvoir de nuisance nettement plus important que ses congénères. Il soupira et accéléra le pas. Il était trop tard pour revenir s'excuser. Chapitre 2. 1368 avant Jésus-Christ, vallée du Nil.